Bonjour à toutes et à tous, il est tout juste 16h à Paris, 17h à Rafah.
Olivier Sherman.
Une nouvelle attaque israélienne meurtrière aujourd'hui à Gaza, cette fois près d'un point de distribution d'aide humanitaire, attaque qui a fait 31 morts et des dizaines de blessés. L'Ukraine mène une opération d'ampleur contre l'aviation militaire en Russie, 4 bases militaires touchées, dont une en Sibérie orientale, à des milliers de kilomètres de ses frontières. L'opération vise à détruire des bombardiers loin du front en Russie. Au Mexique, 100 millions d'électeurs vont désigner tous les magistrats du pays, des tribunaux de district jusqu'aux 9 juges de la Cour suprême, c'est une première. Et puis nous irons à Roland-Garros pour le début des huitièmes de finale et déjà des premiers qualifiés pour les quarts. Enfin, une page musicale avec du rap et le dernier album de Damso, intitulé Beya, sixième et ultime disque qui conclut 10 ans d'une carrière brillante. Au moins 31 morts, c'est le terrible bilan de l'attaque de ce dimanche matin à Rafah, dans le sud de Gaza. Elle a eu lieu aux abords d'un centre de distribution d'aide alimentaire géré par GHF, récemment mis en place avec le soutien américain. C'est le deuxième incident mortel, grave, en marge des opérations de cette fondation, une fondation très critiquée par les organisations humanitaires internationales. Retour sur cette attaque avec Abla Jonaidi.
Ils étaient des milliers, dès l'aube, à attendre de quoi manger ce dimanche aux abords de l'un des deux centres de GHF à Rafah, dans le sud de Gaza. Certains avaient marché toute la nuit depuis le centre de l'enclave, car les denrées entrent au compte-gouttes depuis le blocus instauré par Israël début mars. Tout à coup, selon des témoins et la défense civile palestinienne, l'armée israélienne a tiré avec ses drones et ses blindés. Plusieurs personnes meurent sur le coup, d'autres périssent après leur transport à l'hôpital. C'est la deuxième fois que des personnes meurent aux abords d'un point de distribution de GHF, une organisation sans expérience dans l'humanitaire. La première fois, c'était lundi dernier. 2 morts et plusieurs dizaines de blessés avaient été rapportés. L'armée israélienne, dans les deux cas, dément les faits rapportés. Ces drames pourraient être évités si l'aide était à nouveau distribuée massivement à Gaza. Mais la perspective de voir signer un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas s'est éloignée hier. La réponse du Hamas à la proposition américaine ayant été jugée inacceptable par Washington.
L'Ukraine mène aujourd'hui une opération d'ampleur contre l'aviation militaire en Russie et a notamment touché une base en Sibérie orientale à des milliers de kilomètres de ses frontières. Les services de sécurité ukrainiens affirment que l'opération vise à détruire des bombardiers loin du front en Russie. Plus de 40 appareils auraient été touchés. L'attaque a visé 4 aérodromes. C'est dans ce contexte qu'une délégation russe s'est envolée vers Istanbul, où des pourparlers avec l'Ukraine doivent avoir lieu demain. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a finalement annoncé qu'une délégation ukrainienne s'y rendrait aussi, après avoir laissé planer le doute sur la participation de son pays. En Russie, 2 ponts se sont effondrés après des explosions cette nuit dans les régions de Koursk et de Bryansk, frontalières de l'Ukraine. L'un des effondrements a provoqué des accidents de train dont l'un a fait au moins 7 morts. Les autorités ont immédiatement diligenté une enquête pour acte de terrorisme. Les Polonais votent aujourd'hui pour élire leur président. Ils ont le choix entre le maire pro-européen de Varsovie, Rafał Trzaskowski, et Karol Nawrocki, un historien nationaliste soutenu par le parti conservateur Droit et Justice. Les deux candidats ont voté à la mi-journée dans la capitale polonaise. À midi, le taux de participation s'est élevé à près de 25%, légèrement en hausse par rapport au scrutin présidentiel de 2020. Le scrutin s'annonce très serré. Selon les derniers sondages, les résultats sont attendus tard dans la soirée, voire demain matin. Plus de 1000 migrants ont traversé la Manche et sont arrivés au Royaume-Uni sur de petites embarcations pour la seule journée d'hier, un record depuis le début de l'année. En tout, 15 000 personnes ont traversé, un niveau inédit malgré les nombreuses mesures mises en place par les gouvernements français et britanniques. C'est une première au niveau mondial. Les Mexicains sont appelés aux urnes ce dimanche pour élire les représentants du pouvoir judiciaire, depuis les juges de district jusqu'aux membres de la Cour suprême. Fruit d'une réforme constitutionnelle initiée par l'ancien président Andrés Manuel López Obrador et défendue par sa successeure Claudia Sheinbaum, ces élections ont provoqué des débats sur l'indépendance des magistrats qui seront élus. Explication Théo Conscience.
Assainissement du système judiciaire ou danger pour l'indépendance de la justice? L'élection ce dimanche de 881 juges, magistrats et membres de la Cour suprême divise au Mexique. Pour la gauche au pouvoir, ce nouveau mode de désignation doit permettre de refonder un système judiciaire corrompu par le népotisme, le clientélisme et le trafic d'influence. La meilleure façon d'assainir le pouvoir judiciaire, c'est la participation du peuple, a estimé la présidente Claudia Sheinbaum. Mais alors que cette dernière bénéficie d'un fort taux de popularité, l'opposition l'accuse, elle et son parti Morena, de vouloir une justice aux ordres. Ces dernières années, la Cour suprême, dont les 9 membres seront élus aujourd'hui, a censuré plusieurs lois du parti au pouvoir depuis 2018. Dans un pays gangréné par la violence criminelle, les détracteurs de cette élection craignent aussi que les futurs juges se retrouvent sous l'influence ou la menace des narcotrafiquants. Les liens de certains candidats avec le crime organisé ont d'ailleurs fait polémique pendant la campagne. C'est par exemple le cas de Sylvia Delgado, ex-avocate du narcotrafiquant Joaquin El Chapo Guzmán, dont la candidature au poste de juge pénal a finalement été approuvée par le comité d'évaluation prévu par la réforme.
La compagnie indienne Indigo annonce à New Delhi avoir signé pour 30 Airbus A350-900 portant à 60 appareils sa commande de gros porteurs auprès de l'avionneur européen afin de conquérir le marché étranger. Indigo est une compagnie qui a vu le jour en 2006 et elle est déjà à l'origine du plus gros contrat en volume de l'histoire de l'aviation civile avec 500 monocouloirs Airbus en 2023. Comme promis, direction Roland-Garros pour les huitièmes de finale. Et honneur aux dames, Éric Mamorut, bonjour.
Bonjour Olivier.
Alors vous suivez actuellement le match entre la polonaise Iga Świątek, triple tenante du titre, et la kazakhstanaise Elena Rybakina. Et c'est un match plutôt serré.
Ah là, suspense intégral. 4 partout dans la troisième manche, une manche partout donc entre les deux jeunes femmes de lauréates en Grand Chelem. Iga Świątek, vous l'avez dit, est triple tenante du titre ici à Roland-Garros, c'est la reine de la terre battue face à elle. Une demoiselle, Elena Rybakina, qui apprécie davantage le gazon de Wimbledon. Elle s'y était imposée en 2022 face à 11 Jabeur. Mais elle commence à prendre goût à la terre battue, puisqu'elle a remporté juste avant ce Roland-Garros le tournoi de Strasbourg. Et on l'a vu en ce début de tournoi parisien, elle n'est pas maladroite du tout. Et là, elle tient tête à Iga Świątek, qui, il est vrai, eh bien, traverse une période compliquée depuis plusieurs mois, depuis qu'elle a changé d'entraîneur, depuis qu'elle a eu ce contrôle positif à la mélatonine. Finalement, eh bien, elle a été déclarée innocente, une contamination. Bon, mais ça l'a vraiment troublée psychologiquement. Et elle n'a plus gagné depuis Roland-Garros dernier, d'ailleurs. Iga Świątek, qui a même perdu sa place de numéro 1 mondial, elle a descendu au 5e rang et on la sent fébrile. Elle commet des fautes, des hauts et des bas dans cette partie. Et donc, suspense. En tout cas, lauréate de cette partie affrontera Elina Svitolina, l'Ukrainienne, qui s'est débarrassée en 3 manches de Jasmine Paolini, l'Italienne, qui était la finaliste sortante. Peut-être que donc les deux finalistes de l'an dernier auront disparu ce soir.
Merci beaucoup Éric Mamrut, on vous laisse continuer à Roland-Garros. Toujours en sport, le PSG arrive en France après sa très large victoire en finale de la Ligue des Champions face à l'Inter Milan 5-0. Dans une heure, les joueurs et le staff vont défiler sur les Champs-Élysées. L'équipe sera ensuite reçue par le président Emmanuel Macron. Damso a dévoilé vendredi Beya, 6e disque qui clôt 10 ans d'une carrière brillante. Depuis 2 ans, le rappeur belgo-congolais de 33 ans l'affirme, cet album est le dernier. Toutes les explications avec Lisa Giroldini.
Dans les ténèbres, je commence ma vie. Je parle en G40 et mon trail. De la voirie à la harie, je fais des AR au-dessus de l'Océanie.
Damso se livre sans détour dans Beya, album où il oscille entre sa part sombre et violente et des ambiances plus douces et poétiques. Le rappeur est tiraillé entre son passé marqué par la douleur et sa quête de résilience. Les 15 titres de l'opus dégagent un profond besoin d'introspection, regard tourné vers ses blessures intimes. Damso revient sur ses traumatismes d'enfance, notamment liés à la violence connue très tôt à Kinshasa lors de la deuxième guerre du Congo.
Je connais là un regard, le phare, un dessert. C'est des visages ensemble. J'étais personne, j'étais encore enfant.
Le rappeur évoque aussi sa période d'exil et de vie à la rue, la place grandissante de la religion dans sa vie, mais aussi celle de l'amour, thème omniprésent dans cet album. Si certains titres se démarquent par leur intensité, d'autres moins marquants laissent une impression d'inachevé. Beya est néanmoins une œuvre réfléchie et apaisée, reflet de l'évolution de Damso et peut-être d'une forme de délivrance.
Yo tengo sentimientos.
Beya, le nouvel album du rappeur Damso qu'il présente comme le dernier de sa carrière. Voilà, toujours à l'écoute de RFI, 16h10 à Paris, excellent dimanche.